intitule « La fabrique des mots, la production du langage par des adultes ». Alors le plan de ma conférence est suivant. Je vais brièvement rappeler certaines généralités sur le langage et la langue, puis nous envisagerons ensuite quelques méthodes d'étude de la production verbale, et j'essaierai de vous sensibiliser de manière accessible à des problématiques de recherche actuelles sur la fabrique des mots. Alors on va commencer par quelques généralités sur le langage. D'abord, qu'est-ce qu'un langage ? Bon, c'est une vaste question. Je pense que chacun d'entre vous a un peu sa définition. Alors on parle du langage des fleurs, du langage des signes, des animaux. Il existe en fait différentes expressions. Mais de là à définir le langage, on peut dire que ça relève de la gageure parce qu'il existe en fait de nombreuses définitions. Et comme souvent, trop de définitions nuisent à la proposition d'une définition. Alors Mounin, qui fut un célèbre linguiste, a écrit « Une longue tradition philosophique nomme langage tout moyen quelconque d'exprimer des idées ». Alors, même s'il est difficile de dire consensuellement ce qu'est un langage, même s'il est difficile de donner une définition, on peut dire que le langage permet l'expression des idées, des pensées. C'est la capacité à exprimer des pensées via un code. Alors bien sûr, il existe d'autres moyens d'exprimer des pensées. On peut exprimer des pensées par la peinture, par exemple. Une grande question a été, est-ce que le langage est le propre de l'homme? Alors pour le philosophe Descartes, la réponse est clairement oui. Le langage, c'est ce qui fait la spécificité humaine. Pour lui, l'homme est le sommet de la création. Et pour lui, les hommes sont différents par nature des animaux. Alors pour d'autres philosophes, il y a une longue tradition philosophique comme ça. Pour Montaigne, au contraire, entre les deux, entre les animaux et les êtres humains, il y a plutôt des différences de degrés. Donc pour Descartes, c'est clair. Pour lui, l'homme est capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le langage est le propre de l'homme. Alors, les études qui ont été conduites auprès d'animaux ont montré que les grands singes, par exemple les chimpanzés, pouvaient apprendre effectivement du langage jusqu'à 900 mots environ. Et puis, il y a une étude qui est très récente, qui date de 2010, qui a été effectuée auprès d'un chien, un border collie, qui s'appelle Chaser. Donc, ça a été réalisé aux États-Unis. Et lui, Chaser, il a été capable d'apprendre plus de 1000 mots correspondant à des noms d'objets. Alors, le chercheur a utilisé des peluches, des jouets d'enfants, et le chien était capable, quand on lui donnait le nom, d'aller récupérer le bon objet. Alors, si vous voulez, à partir de ça, on pourrait se dire, les animaux, ils peuvent parler, mais la grande différence entre ces capacités, qui sont certes impressionnantes, et l'être humain, c'est que nous sommes capables de créer de nouvelles phrases, de nouvelles expressions. Nous sommes dotés d'une grammaire, d'une syntaxe. C'est ce que les grands singes n'ont pas. Ils n'ont pas ça. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale. Alors, quand est-ce que le langage est apparu chez l'homme? Alors là, c'est difficile de donner une réponse précise. Selon certaines recherches, le langage sera apparu chez Homo erectus, mais pas le langage tel que nous parlons, nous, maintenant, un proto-langage, il serait apparu il y a 1,5 million d'années. Mais il faut pas prendre en fait ces chiffres pour argent comptant, ça dépend des études. Donc c'est une capacité très récente finalement le langage, parce que si on ramène ça aux 4,5 milliards d'années de notre planète, vous voyez qu'on situe l'apparition d'Homo sapiens sapiens, qui devait vraisemblablement parler notre langage. Vous voyez, c'est Homo sapiens sapiens qui est au plus proche du langage que nous produisons actuellement. Il apparaît à 23h59, Homo sapiens sapiens. Donc, comme le langage apparaît avec lui, vous voyez que, le langage tel qu'on le connaît là, vous voyez que c'est très récent. Alors, le langage oral, il nécessite un appareil biologique spécifique qu'on a bien identifié, ce qu'on appelle l'appareil phonatoire. Et parmi les organes qui participent à la réalisation du langage articulé, je vais aller très vite parce que ça, tout le monde le sait, il y a la langue, le pharynx, le larynx, les cordes vocales, les poumons, etc. Alors, le langage articulé, il est largement appris. On a mis en évidence, par exemple, que chez des enfants sauvages, chez des enfants qui sont privés d'apport culturel, les enfants qui sont maltraités, laissés dans un placard, par exemple, ne développent pas le langage dans des conditions normales, et passé une certaine période, ils rattraperont vraisemblablement jamais leur retard au niveau de l'expression. Alors, toujours dans les considérations générales sur le langage, quelle est la quantité de langage produite? Alors, le langage, comme vous le savez, il est produit à l'oral comme à l'écrit, mais dans notre activité quotidienne, c'est le langage oral qui clairement domine, même si les échanges électroniques, les SMS, les emails prennent de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés occidentales, il y a de plus en plus d'envois de SMS. Par exemple, en 2009, au Royaume-Uni, il y a eu 96 billions de SMS envoyés. Donc c'est dire la quantité d'échanges qui s'effectuent. Alors, pour des chercheurs donc, qui travaillent clairement sur cette problématique, nous sommes des toxicomanes de la parole. Ils vont jusqu'à dire que nous sommes des drogués de la parole, et certains plus que d'autres. Et il n'y a pas d'autre habileté cognitive ou motrice autant pratiquée que la production de mots. Alors pour donner quelques chiffres, donc on passe beaucoup de temps à parler aux autres, mais aussi à nous-mêmes. On entretient un dialogue avec nous-mêmes, enfin un monologue plutôt. C'est une activité qui est donc hautement pratiquée. Alors, pour Relof, par exemple, on produit par an 4 millions de mots. Mais pour une étude plus récente de 2007, on en produit encore plus par an, puisqu'on produit environ 16 000 mots par jour. Mais il y a des différences entre les gens qui sont très très importantes. Alors, un petit graphique pour vous montrer. Et justement, est-ce que, une grande question, c'est est-ce que les hommes et les femmes produisent le même volume de paroles? Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Est-ce que les femmes sont de véritables pipelettes, comme certains sont portés à le croire? Alors, quand vous regardez le graphique, vous devez penser, ben oui, c'est vrai, on voit que les femmes produisent plus. Mais en réalité, on peut, par méthode statistique, montrer que la différence n'est pas statistiquement significative. En réalité, les femmes ne produisent significativement pas plus de mots par jour que les hommes. Et dans l'étude de Mel qui a été réalisée, dans les 15% les plus bavards, il y a autant d'hommes que de femmes. Et qui plus est, la personne la plus bavarde de l'échantillon là, ben c'est un homme. Alors, il y a différentes approches qui sont possibles sur la production du langage. Et je vais vous montrer quelle est la mienne, quelle est la spécificité de notre approche, qu'on appelle l'approche de la psychologie cognitive ou des sciences cognitives plus généralement. Alors, comme vous le savez, il y a l'approche philosophique, qui ne sera pas la nôtre. Je vous rappellerai juste Platon, qui dans le Cratyle s'interroge sur l'origine des mots, les relations qui existent entre les mots et les choses. Est-ce que c'est conventionnel ou est-ce qu'il y a une nécessité à appeler, par exemple, de l'eau « eau » L'approche de la linguistique, qui est une approche scientifique, et là on prend le langage comme objet d'étude, je pense que vous avez tous entendu parler de Ferdinand Saussure, et de l'arbitraire du signe, le signifié, le signifiant, ou Chomsky, par exemple, Chomsky est très connu pour ses travaux sur la grammaire générative. Nous, on a une approche qui est une approche de psychologue, c'est-à-dire qu'on étudie le comportement langagier. Si vous voulez, le linguiste, lui, il étudie la langue et il essaie de décortiquer le fonctionnement d'une langue ou des langues, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer le comportement langagier. Le psycholinguiste est clairement un scientifique. Donc la psycholinguistique, qui est ma discipline de rattachement, c'est clairement ce qu'on appelle la psychologie cognitive qui s'insère dans les sciences cognitives. Et je vais vous donner quelques points de repère pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette approche. Qu'est-ce que l'on appelle l'approche cognitive du langage? En quoi ça consiste? Vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. Enfin, je vais essayer de vous le faire comprendre aisément. La psychologie cognitive, elle considère que n'importe quelle activité mentale, n'importe laquelle, comme lire, calculer, mémoriser, percevoir un visage, est décomposable en événements mentaux. On peut saucissonner l'activité. Donc c'est une perspective analytique qui est adoptée. Il existe une cascade d'événements qui sont mis en œuvre et qui concourent à la réalisation d'une activité mentale. Nous n'avons pas consciemment accès directement à ces événements mentaux. Et d'ailleurs, aucune technologie actuellement ne le permet. Il n'y a pas possibilité de visualiser les mécanismes mentaux directement. Aucune. Donc, on ne peut qu'inférer, si vous voulez, les mécanismes mentaux à partir d'une analyse fine et rigoureuse du comportement. Et on va le voir quand on parlera des différentes méthodes d'étude du langage. Donc, le niveau de description de la psychologie cognitive, si vous voulez, il se situe entre le cerveau et le comportement. Je ne suis pas un biologiste. Je n'étudie pas directement le cerveau. J'étudie le résultat produit par le cerveau, qui est le comportement, pour comprendre les schémas qu'utilise le cerveau. Et bien évidemment, on utilise les découvertes des neurosciences, clairement. Alors, l'idée de base, je vous l'ai dit, c'est qu'il existe différents niveaux de traitement, et nous, en tant que chercheurs en psychologie cognitive, on se doit de les identifier. Donc, pour le langage, pour la fabrique des mots, combien il y a de niveaux de traitement? En quoi consiste-t-il? Comment ces niveaux de traitement sont-ils agencés dans le temps? Grâce à cette approche, on va aboutir à la formulation de ce qu'on appelle un modèle. On va pouvoir modéliser l'activité. Le modèle, il va spécifier les niveaux de traitement, les différentes étapes. Donc là, en l'occurrence, de l'intention de communiquer une idée jusqu'à la réalisation articulatoire. Et nous, on va essayer donc d'identifier ces niveaux et comment, dans le temps et s'agence, on va en proposer un modèle. Ce modèle sert de guide, de cadre interprétatif pour donner de la cohérence à tout un tas de résultats, et ces modèles sont utiles aussi pour, on le verra en conclusion, éventuellement éclairer des pratiques pédagogiques, thérapeutiques. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, et je vais vous sensibiliser à certains problèmes que l'on se pose lorsqu'on étudie la production du langage. Alors, les chercheurs s'accordent sur l'existence de trois niveaux de traitement qui sont en jeu dans la production verbale: un niveau conceptuel, un niveau lexical et un niveau articulatoire. Alors, le niveau conceptuel, c'est la pensée. Une idée qui est défendue avec force, c'est que la pensée existe sous un format de représentation qui est distinct du langage. Donc il existerait ce qu'on appelle, ce que Steve Pinker, qui a écrit L'instinct du langage, peut-être que vous le connaissez, appelle le mentalet. Le mentalet, c'est le langage de la pensée. C'est un peu oxymorique ce que je raconte, mais voilà. Donc, nous avons aussi un niveau périphérique, qui est le niveau articulatoire, où là, on va programmer des gestes articulatoires. Là, c'est un niveau où des commandes neuromusculaires vont être programmées, puis exécutées. Donc, les chercheurs s'accordent sur ces trois grands niveaux, mais dans la littérature scientifique, l'accord s'arrête là. Il y a après beaucoup de débats sur est-ce qu'il n'y a pas des niveaux intermédiaires, est-ce qu'on ne peut pas en fait subdiviser, un peu, vous voyez, dans l'atome, on subdivise, jusqu'où est-ce qu'on peut subdiviser, puis surtout comment ça s'agence dans le temps. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien joli tout ça, on a vu, d'accord, l'approche cognitive, les niveaux de traitement, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour étudier la fabrique des mots? Quels sont les outils qui sont à notre disposition pour étudier la fabrique des mots? Eh bien, parmi les méthodes utilisées, il y a très clairement l'analyse des erreurs de production. Les fameux lapsus dont monsieur Carpentier, vous parlait tout à l'heure. Les fameux lapsus, ils correspondent pour nous à des erreurs d'aiguillage. Par exemple, il a reçu la médaille à titre costume au lieu de posthume, ou le Figaro magarine au lieu de magazine. D'accord? Alors, il y en a un autre, je ne le commande pas, mais parmi les lapsus récents, il y a le fameux lapsus de Rachida Dati qui a fait beaucoup parler. Donc, inflation au lieu de, vous le savez tous, elle l'a fait. Ouais. Bon. Alors, Freud serait content parce que lui, comme pour lui, tout est sexuel, il dirait, ah, lapsus révélateur. Bon, sans doute, on ne peut pas l'écarter. Et puis là, c'est sans doute flagrant. Mais pour nous, les lapsus, le plus souvent, et sérieusement, en grand nombre, les lapsus révèlent plutôt des erreurs d'aiguillage. Alors on peut pas nier, hein, je veux dire, quelqu'un qui veut absolument qu'il soit sexuel, pourquoi pas, puisqu'on peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Si quelqu'un veut voir la sexualité partout, il peut. Mais nous ne la voyons pas partout, en l'occurrence. Alors, les lapsus lingués, ils ne sont pas si nombreux que cela quand on parle. On pourrait se dire, ah bon, on se trompe souvent. En fait, notre moulin à parole, il est relativement efficace. Si vous regardez, il y a un lapsus pour 900 mots produits environ. Alors, les estimations varient d'étude à étude, on ne va pas rentrer dans les détails. Les erreurs, elles doivent être distinguées de ce qu'on appelle les ruptures dans la fluidité de l'expression verbale. Donc, il y a les erreurs, clairement, puis il y a les pauses pleines. Alors, les pauses pleines, les pauses, elles peuvent servir à reprendre sa respiration. Là, tout de suite, je suis en train de parler, donc il faut que je gère ma respiration. Mais je vais aussi hésiter à certains moments, je vais sans doute faire ou je vais m'arrêter plus longtemps. Ça correspond à des actes de choix lexicaux. Donc on choisit les mots pendant ces moments, pendant qu'on fait on réfléchit sur, mais pas consciemment, on n'en a pas conscience. Et d'ailleurs, une étude a montré que les « par minute », c'est une étude qui a été faite toujours aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de recherches faites aux États-Unis dans nos domaines, qui montre que le nombre de « par minute » varie en fonction des disciplines académiques. Vous voyez que les « par minute » sont plus nombreux en histoire de l'art ou littérature, par exemple, qu'en biologie ou chimie. Alors, vous allez me dire, ça vient de quoi? Ça vient que les orateurs sont moins bons dans ces disciplines ou non? Ça vient du fait que les options lexicales sont plus nombreuses dans les disciplines dites littéraires que dans celles scientifiques. Et d'ailleurs, si on regarde les capacités oratoires des différents conférenciers, on s'aperçoit que lorsqu'ils parlent d'autre chose que de leur discipline, le nombre de « par minute » est là dans l'étude équivalent. D'accord ? Donc c'est pas en fait un problème de caractéristiques oratoires. Vous voyez donc que le choix des mots est cognitivement coûteux. Hein ? Enfin, on parle cognitivement coûteux, ça veut dire que ça nécessite de l'attention, de l'énergie mentale, et ça se traduit par des hésitations. Alors, donc les linguistes, les psycholinguistes se sont intéressés aux erreurs, et les erreurs, c'est la méthode, disons la première qui a été utilisée pour étudier la fabrique des mots. C'est la toute première méthode, elle continue à être utilisée, mais c'est une méthode qui nécessite de la patience. De la patience parce qu'il faut répertorier un nombre important d'erreurs. Et puis quand on a assez d'erreurs collectées, on peut commencer à les catégoriser, à les analyser finement, à les décortiquer. Si vous voulez, on peut comparer ce travail à celui d'un paléontologue qui, à partir donc d'éléments fossiles, va remonter par exemple, aux dinosaures. Nous, on va reconstruire le schéma mental du cerveau pour expliquer l'erreur, donc à partir des erreurs. Alors, une autre méthode qu'on exploite beaucoup, un autre phénomène, c'est le phénomène dit du mot sur le bout de la langue. Alors, vous avez tous vécu cette expérience désagréable, on cherche un mot qui ne vient pas. Alors, ça se produit surtout avec les noms propres. Lorsqu'on croise quelqu'un, par exemple un collègue avec sa compagne, et on veut présenter son collègue à sa compagne, on est parfois très très gêné, hein, parce que le nom ne revient pas. Les situations de mots sur le bout de la langue ne sont pas exceptionnelles. Elles interviennent, disons, à peu près une fois par semaine pour des adultes jeunes. La mauvaise nouvelle, c'est que ça augmente. Hein. Mais pas non plus de façon drastique. Hein. Ça double avec l'âge, en gros. Donc en vieillissant, on est de plus en plus enclin à avoir des mots sur le bout de la langue. Alors ça se produit surtout avec des mots, donc j'ai dit des noms propres, mais aussi des mots rares. Par exemple, peut-être que parmi vous, en utilisant des définitions correspondant à des mots rares, vous allez peut-être être dans un état de mots sur le bout de la langue, on peut faire le petit jeu, appareil servant à la distillation, vous devez récupérer le nom. D'accord ? Mais normalement, vous allez le faire tout seul, parce que sinon... Parce que chacun doit voir s'il éprouve un mot sur le bout de la langue ou pas. Rocher à fleur de peau dans la mer sur lequel un bateau peut s'abîmer. Système servant à faire passer les péniches en amont, en aval d'un changement de niveau. Bon, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont éprouvé un état de mot sur le bout de la langue. Hein ? Eh bien voilà ce qu'on utilise en laboratoire, on utilise beaucoup de définitions. Et puis quand l'individu est en état de mot sur le bout de la langue, eh bien on va poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'il peut récupérer, hein? Et on y reviendra, on en reparlera du mot sur le bout de la langue tout à l'heure dans l'exposé. Je vous dirai ce que ça nous a appris. Autre méthode, c'est des méthodes qui relèvent clairement du laboratoire, ce qu'on appelle de la chronométrie mentale. Alors, ce sont des tâches où on va mesurer des vitesses de réaction. Donc, des participants viennent au laboratoire, on leur présente sur un écran d'ordinateur des images, et ils doivent fournir le nom le plus vite possible, et on mesure à l'aide d'un logiciel particulier, d'un micro, les vitesses de réaction, les vitesses de production. Alors, l'idée, c'est que cette situation opérationnalise une situation où, dans le quotidien, on a une idée et on veut la communiquer. Sauf que, si vous attendez, par exemple, que quelqu'un ait l'idée d'avion, et veuille transmettre l'idée d'avion, vous pouvez attendre longtemps. Donc, cette tâche permet de provoquer la production d'une idée. Vous voyez ? On provoque la production de l'avion en présentant l'image d'un avion. Il y a des méthodes plus récentes, on peut avoir recours à ces méthodes qui sont plus récentes. Elles sont aussi beaucoup plus complexes à utiliser, ça nécessite, disons, une logistique, du personnel, c'est coûteux. Par exemple, on peut mesurer l'électricité cérébrale, donc les potentiels évoqués, et plus souvent présenté dans les magazines de vulgarisation scientifique, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, où là, bon, c'est une méthode qui est très compliquée, qui nécessite vraiment une infrastructure lourde et une logistique très importante, des ingénieurs de recherche, des médecins, donc c'est un énormément, et on peut mesurer en fait les variations de débit sanguin au niveau du cerveau. Mais ce que la méthode fait, c'est uniquement ça. Elle mesure seulement les variations de débit sanguin, elle ne montre pas les processus en train de fonctionner. Donc, ces méthodes, on les utilise pour étudier la fabrique des mots. Donc là, vous avez un aperçu des différentes méthodes utilisées pour la fabrique des mots. Maintenant, je vais essayer donc de vous sensibiliser à des problématiques de recherche actuelles. Donc, j'espère en sortant, là, vous allez vous dire, bon, voilà ce qui se passe en recherche. Alors, combien de niveaux sont nécessaires pour la fabrique des mots ? Donc, c'est une problématique actuelle. Alors, on peut prendre comme analogie la recette de cuisine. On sait que pour faire une recette de cuisine, il faut un certain nombre d'ingrédients, lesquels sont insérés selon un certain ordre. Bon. La question, là, elle est, quels sont les ingrédients qu'on utilise pour fabriquer les mots ? Quelle est la recette du cerveau ? Alors, un aspect qui est bien établi actuellement, c'est que les mots ne sont pas prêts à l'emploi dans le cerveau lorsqu'on souhaite communiquer une idée. Autrement dit, les mots ne sont pas cueillis dans le jardin cérébral des mots. Donc, contrairement à la belle affiche du festival, la belle affiche donne une vision totalement erronée de la manière dont le cerveau s'y prend. Alors, comme déjà dit, les chercheurs s'accordent sur l'existence de trois niveaux, conceptuel, lexical et articulatoire, mais je vous l'ai déjà dit, l'accord s'arrête là. Alors, donc, on l'a dit, produire un mot à partir d'une idée, ce n'est pas récupérer directement le mot dans la tête. Il n'y a pas d'appariement entre une idée et une forme globale dans la tête. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc le point de départ de la communication, c'est l'intention de communiquer une idée, d'exprimer une idée. Ça s'appelle la conceptualisation. Donc là, on a par exemple un concept cible, chien, qu'on veut transmettre, mais en parallèle, parce que le réseau, c'est c'est dense de connexions. Il y a plein de connexions entre différentes unités. Il n'y a pas que chien qui est activé, il y a aussi chat, aboyer par exemple. Et l'idée, c'est que l'activation se diffuse dans ce réseau et que grâce à cette diffusion, d'autres unités qui sont nécessaires vont être activées à différents moments. Par exemple, il y a des unités qu'on appelle dans notre jargon, si vous ne retenez pas, c'est pas grave, des lemmas, qui sont relatives à des informations sur le genre. C'est masculin, c'est féminin, sur la catégorie grammaticale, c'est un nom, c'est un verbe, sont activées. Et elles sont activées, ces informations, avant la sonorité des mots. La sonorité des mots, ce qu'on appelle, nous, les phonèmes, et aussi la métrique du mot, ce qu'on appelle la prosodie, ou la musicalité du langage. Eh bien, ces informations sont activées après le niveau conceptuel et sont nécessaires pour réaliser quoi, au fait ? Qu'est-ce qui est exécuté ? Ce qui est exécuté, ce sont des syllabes. Ce que nous exécutons, ce que l'appareil exécute, in fine, les commandes neuromusculaires correspondent à des syllabes, pas à des mots. Voilà. Donc, il y a de nombreux arguments qui sont en faveur de cette séparation au niveau de traitement. Je ne vais pas les passer en revue, parce que ça vous agacerait assez vite. Mais je peux vous donner un argument qui, justement, vient d'études qui ont été conduites sur le mot, sur le bout de la langue. Dans le phénomène du mot sur le bout de la langue, on sait ce que l'on veut dire. Par exemple, quelqu'un qui est en état de mot sur le bout de la langue peut très bien dire « Mais tu sais, elle portait autour du cou un appareil de maintien de... » cervical, là. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, ça. Bon. Quand un individu est dans un état de mot sur le bout de la langue, en laboratoire, on peut lui poser plein de questions. On va le charcuter. On va lui demander, bon, alors, il est masculin ou féminin, le mot sur le qu'il y a quoi dedans? Il y a P, il y a V, il est long, il est court, il y a trois syllabes, il y a... Bon, etc. Et on a pu montrer, par exemple, Ludovic Ferrand, de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Il porte bien son nom, lui. Donc, 2001, il a montré que dans un état de mot sur le bout de la langue, vous êtes capable de deviner à plus de 80% correctement le genre grammatical du nom. Si c'était au hasard, c'est 50%. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans un état de mot sur le bout de la langue, on récupère les informations dites lemma, qui sont sur la catégorie grammaticale, mais on n'a pas accès à l'intégralité de la sonorité interne. Ça, non. Ça bloque. Ça bloque. Alors, ces dernières années, au-delà de la caractérisation des niveaux de traitement, on a essayé de matérialiser les niveaux de traitement, c'est-à-dire quelles sont les aires cérébrales qui sont en jeu grâce à l'IRM. Donc on sait clairement aujourd'hui que la pensée, c'est le cerveau qui la fabrique, très clairement, et donc les mots sont fabriqués par le cerveau, et on peut identifier quelles sont les zones cérébrales qui participent. Sachant qu'il n'y a pas un hémisphère qui participe, puis un autre qui est complètement silencieux, une zone des mots, en fait, il y a une participation active de beaucoup d'air, pas toutes, mais de beaucoup d'air, et à différents moments. C'est pas les mêmes. Donc vous voyez que le cerveau, il est vraiment dynamique, hein, dans la création des mots. Alors, il y a aussi donc des études qui sont faites avec l'électricité cérébrale. Bref, ce qu'on cherche à faire, c'est à matérialiser la fabrique des mots, hein, clairement, à relier ça avec le fonctionnement du cerveau. Alors, nous n'avons pas conscience des mécanismes qui sont utilisés par le cerveau. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement rapide. Il y a la rapidité. On produit, en gros, si vous voulez, 3 mots par seconde. Et lorsqu'un adulte produit un mot isolé à partir de la présentation d'une image, 300 millisecondes, vous voyez, on est dans la milliseconde, hein, 300 millisecondes après le début de l'image, le mot est choisi. Et ça, on le sait grâce à l'électricité cérébrale. Alors, une autre problématique, donc, vous voyez là, dans mon exposé, j'illustre hein, différentes problématiques de recherche, je fais des zooms hein, pour vous donner une vue d'ensemble. Une question que peut-être vous êtes déjà posée et qui peut se poser, c'est est-ce que les mots s'imposent dans notre tête quand on regarde des objets? Est-ce que, comme dans... Bon, je vais prendre une référence cinématographique, elle n'est pas des plus élaborées, mais pour ceux qui ont vu Terminator, la machine, en fait, dès qu'elle zoome sur un objet, le nom s'active. Bon, ben vous le regarderez avec cette idée en tête. Donc, lorsqu'on perçoit des objets dans une scène, est-ce que le nom des objets s'active alors même qu'on n'a pas spécialement l'intention d'exprimer le nom de l'objet? Ou est-ce qu'en fait, c'est seulement si je dois dire bouteille, vous voyez, bouteille, je dois dire le nom bouteille, alors oui, forcément, son nom s'active. Mais le verre qui est à côté, là, je veux dire bouteille, le verre est à côté, est-ce que le nom verre s'active, alors qu'on n'en a pas conscience, bien sûr. Voilà le genre de problématique que l'on étudie. Alors est-ce que, par exemple, là, dans cette situation, je veux dire, prends la chaise, est-ce qu'il y a une veste dessus, est-ce que le mot veste s'active? Alors que, bien sûr, on identifie ce que c'est, on a bien vu que c'était une veste. Alors comment on fait? Eh bien, on va utiliser des méthodes de laboratoire qui sont peut-être un petit peu tordues, hein, vous avez pensé qu'elles sont un peu tordues, mais on va par exemple faire dénommer des gens en leur disant tu dénommes l'image verte, mais tu essaies d'ignorer l'image qui est derrière superposée rouge. Donc vous voyez que dans ce cas, on a quoi? Une chaise et une chemise. Chaise, chemise, ça se ressemble. Bon. L'idée, c'est que là, on a une relation sur le plan sonore. Hein, si on va plus vite dans cette situation que dans une situation où les deux images n'ont pas la même sonorité, ça veut dire que le nom des deux sont actifs. Un autre exemple pour vous faire comprendre. Là, vous avez par exemple le couple canard-camion. Vous voyez que le participant, vous avez compris, hein, le participant, il doit dire canard. Mais il voit derrière camion. Un autre participant va voir canard, mais derrière, il y a pomme. Dans un cas, c'est que à chaque fois. Dans l'autre, ces deux sont différents. Les résultats expérimentaux montrent qu'on va plus vite avec canard-camion qu'avec canard-pomme. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les deux noms sont actifs, même s'il n'y en a qu'un qui est utile. Donc il semble que dans certaines situations, les deux noms, hop, ils sont actifs dans la tête, alors même qu'il n'y en a pas besoin. Hein. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien non, pas toujours. Il y a des résultats de recherche récents qui montrent que ça dépend, entre autres choses, de la difficulté à dénommer et à, enfin, on va dire, à analyser la cible. Si vous devez, par exemple, vous avez une situation, vous avez donc une table et un arbre, et vous devez dire table, et vous ne devez pas dire arbre. Est-ce que dans ce cas-là, arbre est activé automatiquement, alors que vous ne devez pas le dire? La réponse est non. Non. Pourquoi? Parce que pour traiter table, il vous faut beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie mentale, parce que vous voyez que là, c'est dégradé. Hein, la perception est dégradée, on a des traits, hein, qui sont peu perceptibles, et donc du coup, ça vous demande toute votre énergie pour repérer quel est l'objet, pour l'identifier. Donc du coup, comme il y a toute une énergie qui est captée pour le traitement d'image cible, vous devez dire table, il reste plus suffisamment d'attention pour traiter arbre. Et dans ce cas-là, des recherches en laboratoire qui sont un peu sophistiquées montrent que, ben, non, arbre n'est pas actif. Alors, juste pour vous donner la sensation du type d'expérience qu'on réalise en laboratoire, mais si vous ne comprenez pas tout, pas de panique, c'est pas grave du tout. C'est même plutôt normal que vous ne compreniez pas tout dans les détails. Voilà comment on fait. On va par exemple présenter, vous voyez, le couple table-arbre, et le participant, il doit dire le plus vite possible, donc table. Puis il a un casque, et puis il va entendre par l'intermédiaire du casque soit un mot comme armoire, soit un autre mot comme tarte, soit un mot comme parapluie. Alors c'est une situation de double tâche, alors vous vous dites, mais mon Dieu, si j'étais participant dans cette expérience, mais les gens y arrivent bien, hein. Ils se prêtent bien au jeu, et c'est pas si compliqué que ça, il y a un petit entraînement avant. Hein. Alors, on dit pas aux gens ce qu'on cherche, hein, évidemment, sinon ça biaise l'expérience. Les gens se prêtent au jeu, alors ils vont devoir dire table, par exemple, puis en même temps ils entendent armoire, tarte, parapluie. En fait, si vous regardez bien ce qu'on leur envoie par l'intermédiaire du casque, c'est pas n'importe quoi, forcément. Il y a une astuce. Armoire, c'est relié avec arbre. Tarte, c'est relié avec table. Et parapluie, c'est relié avec rien du tout. C'est le point étalon. C'est ce qu'on appelle la condition contrôle, qui est nécessaire tout le temps quand on fait des sciences expérimentales. Eh bien, je vous passe les détails des résultats, hein. Mais les résultats permettent d'asseoir l'idée que quand on doit produire table, dans cette situation-là, le nom arbre n'est pas actif, parce qu'il faut toute votre attention. Dans cette situation qui est optimale, tout se traite facilement, relativement facilement, les deux noms sont activés. Donc les noms s'imposent effectivement dans notre tête, et pas tout le temps. Alors, ça va, vous tenez le coup? Bon. Alors, on passe à une autre problématique, qui est la vitesse d'accès aux mots. Alors, quels sont les facteurs qui ont un impact sur la vitesse d'accès aux mots? Bon, je vais plus vite, par exemple, pour dire, à partir de l'image d'une pomme, que pour produire, par exemple, harpe à partir de l'image d'une harpe. Ça, c'est un résultat qu'on a mis en évidence. Et c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que les concepts sont plus familiers? Les idées qui sous-tendent les mots, ou est-ce que ce sont les mots, ou est-ce qu'il y a un peu des deux? Alors, ce qu'on a pu mettre clairement en évidence dans notre discipline, c'est que la codabilité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on peut mettre une étiquette verbale pour un objet, a un impact énorme sur la vitesse d'accès et de fabrique des mots. Par exemple, là, vous voyez, l'image est ambiguë. Ça pourrait être ballon, ça pourrait être balle, ça pourrait être lasso. Alors que là, l'image n'est pas ambiguë, c'est panier. Eh bien, là, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour sélectionner un mot, pour dire « ballon », par exemple, que dans cette situation « panier », alors même que vous ne vous trompez pas. D'accord ? Alors, une étude récente a montré que la couleur était un aspect qui, très clairement, augmentait les vitesses de dénomination. C'est-à-dire que les images en couleur, comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup, beaucoup plus vite identifiées et le mot est produit beaucoup plus rapidement à partir d'images en couleur qu'à partir de dessins en noir et blanc. On pourrait me dire, c'est un peu trivial, sans doute. Mais en sciences psychologiques, d'abord, on assoit, si vous voulez, les connaissances, même si elles sont triviales, et souvent, très vite, on s'aperçoit que les choses se complexifient. Et là, en fait, un des résultats qui est non trivial, c'est que la couleur accélère tout, même quand les objets n'ont pas de couleur prototypique. C'est-à-dire qu'effectivement, pour du raisin, une pomme, une banane, il y a des couleurs prototypiques. Donc ça accélère, parce que ça correspond à la réalité de l'objet. Mais même quand on a des objets qui peuvent avoir des couleurs très différentes les unes des autres, ça accélère. Alors, un facteur qui a été clairement mis en évidence aussi, c'est la fréquence de rencontre des mots. Alors, on sait que dans notre environnement, certains mots, on les entend plus souvent, on les voit plus souvent, on les produit plus souvent. Et ce facteur a un impact énorme dans la vitesse de production des mots. Les mots fréquents sont produits plus vite que les mots rares. Alors, la relation, elle est donc linéaire, mais quand on transforme en logarithme, si vous savez pas ce qu'est un logarithme, tant pis, mais croyez-moi sur parole, autrement dit, plus le logarithme de la fréquence est élevé, d'accord, plus, en fait, je vais vite, d'accord. Donc, on a cette relation. Alors, vous allez me dire, si c'est ça que vous avez à dire, les chercheurs, c'est pas, d'accord, ok. Mais ça, ce sont de vieux résultats d'abord, et ensuite, je vous répète, qu'une science ne peut pas se bâtir sur des a priori. C'est-à-dire, ça doit marcher, donc on pense que et on fait comme si. Parce que l'édifice s'écroule d'un coup. Parce que souvent, on demande des choses qui ne sont pas intuitivement fondées. Et puis, on part d'un problème qui est au départ simple, on a des résultats simples, et puis vite, quand on décortique, ça se complexifie. Ça se corse, comme on dit. Alors, en effet, ça se corse parce qu'on a montré qu'il n'y a pas que la fréquence de rencontre qui joue. C'est-à-dire que là, vous êtes adulte, vous avez rencontré certains mots plus fréquemment que d'autres. Donc ça joue, effectivement. Mais il y a aussi l'histoire de la fréquence des mots qui joue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la fréquence là, aujourd'hui, au moment T. Il y a aussi l'histoire des mots. C'est-à-dire que les mots, certains mots, sont plus fréquents quand on est enfant que quand on est adulte. Exemple, bike en anglais. Est plus fréquent, bicyclette, est plus fréquent quand on est enfant, quand on est adulte. Ça, c'est établi à partir de bases de données objectives. C'est pas mon intuition, bien sûr. On peut le mesurer. Tandis que birth, naissance, est plus fréquent à l'âge adulte que pendant l'enfance. Un autre exemple, ce serait dragon et taxe. Dragon, plus fréquent quand on est enfant qu'à l'âge adulte et taxe inversement. Et on espère d'ailleurs pour... Donc, sur un paramètre qui apparaît a priori évident, vous voyez que le fait qu'un mot ait été fréquent pendant l'enfance fait qu'il conserve son bénéfice à l'âge adulte. C'est-à-dire que dragon est toujours dénommé plus vite que taxe. Parce qu'il a été fréquent un jour. Fréquent un jour, fréquent toujours. Alors, donc sur un paramètre a priori aussi simple que la fréquence, vous voyez, il y a rapidement des questions complexes qui se posent. Alors, puisqu'il y a deux séances, si vous voulez, qui s'enchaînent, et pour qu'il y ait un bon enchaînement, que je vais donc passer à la dernière partie de mon exposé, et là, c'est des choses, en fait, plus light, et on finira sur une expé un petit peu plus compliquée, et puis j'ai bientôt terminé, pour vous dire les choses, donc ça vous donne un peu une idée de la fin de l'exposé. Les ressources cognitives et la production... du langage, pardon, c'est un problème qui est relativement récent. La question, c'est est-ce que ça puise de l'énergie mentale que de parler? Ça dépend. C'est vrai quand si vous faites un monologue pendant des heures et des heures et des heures, vous doutez que c'est fatigant. Mais dans notre activité quotidienne, on va dire une conversation, est-ce que ça coûte? Eh bien, on le sait. Qu'en effet, produire du langage, c'est cognitivement coûteux. C'est clairement oui, la réponse. Et on a pu le montrer grâce à des études où, par exemple, il y en a plein d'études, mais j'ai choisi celle-là, où des individus doivent parler et conduire en même temps. Alors, ce sont des expériences qui sont faites à l'aide d'un simulateur de conduite automobile. Et de toute façon, Bah, les gens parlent aussi quand ils conduisent, hein, mais on ne va pas mettre en danger les gens. Hein. Et l'analyse qui est faite sur différents paramètres de la conduite automobile montre que les participants conduisent moins vite quand ils font une double tâche, qui est de parler, de raconter une histoire. En fait, ils racontent une histoire. Ils conduisent moins vite et ils sont mieux centrés sur la route. Alors, ils vont me dire, ben, c'est bien alors. Oui, mais sauf que s'il y a un danger, ils réagissent bien moins vite aussi. Donc, si parler ne coûtait rien en termes d'énergie mentale, on pourrait faire les deux en même temps sans aucune difficulté, ce qui n'est pas le cas. Une autre illustration, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui parlent à l'aide de téléphones portables, et dans une telle situation dialogique, il a été montré que l'attention des individus était parfois tellement accaparée, quand ils parlent, hein, ils sont en conversation, ils produisent du langage, mais ils l'écoutent aussi, mais quand on produit du langage, on est aussi à son tour auditeur. Hein. Et il y a de la compréhension, bien sûr, qui intervient dans un dialogue. Bien, l'attention est parfois tellement accaparée que des événements qui ont un caractère baroque, inattendu, ne sont même pas remarqués. Dans une étude de terrain, donc vous aviez des observateurs qui étaient placés à différents endroits stratégiques d'un square où il y avait un clown qui faisait du monocycle. Donc, il se remarque. Hein. Bon. Eh bien, les résultats de cette étude montrent que 75% des individus qui sont en pleine conversation téléphonique n'ont même pas remarqué le clown. Alors que ceux qui marchent, 51% de ceux qui marchent, 61% de ceux qui écoutent de la musique avec un appareil, un Walkman, non, c'est un iPod maintenant, l'ont par contre remarqué. D'accord ? Alors, dernière illustration, là vous voyez, c'est au niveau de la production de discours. Maintenant, la fabrique des mots, puisque c'est quand même le thème de mon exposé, est-ce qu'elle est cognitivement coûteuse, cette fabrique de mots ? La réponse est oui. On le sait, la fabrique des mots nécessite des ressources cognitives, de l'attention. Alors, on a déjà vu tout à l'heure que le choix des mots, vous voyez, c'est cognitivement coûteux. Vous vous rappelez, dans les conférences, les différentes disciplines académiques, les « e » par minute varient en fonction des options lexicales. Bon, mais quand on doit dire, par exemple, « avion », à partir de la présentation de l'image d'un avion, est-ce que c'est coûteux cognitivement ? Est-ce que ça coûte quelque chose ? C'est automatique. Eh bien, une étude récente qui montre que ça coûte quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on a pu le montrer ? De la manière suivante. Alors, c'est la dernière expérience de mon exposé, donc je vous demande toute votre attention. Donc, il y avait une tâche de dénomination de mots à partir d'images. Donc, les gens ont un micro, ils doivent aller le plus vite possible et dire le nom de l'image le plus vite possible. Par exemple, là, ils doivent dire le plus vite possible « avion » dès qu'elle apparaît sur l'écran. En parallèle, quelques millisecondes après, par l'intermédiaire d'un casque, ils entendent un son qui varie en hauteur tonale, d'accord ? Et ils doivent le catégoriser sur un boîtier. Donc il y a des réponses, et ils doivent le plus vite possible de catégoriser le son. Bon, alors, évidemment, c'est pas tout. Hein. Dans cette expérience, on manipulait, on appelait ça manipuler, on faisait jouer le paramètre suivant. Soit le nom de l'image était facile à anticiper. Donc c'est la sélection lexicale qui est plus ou moins simple. Le choix du mot est plus ou moins simple. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, avant l'image, on présente une phrase qui induit ou pas le nom. D'accord ? Comme par exemple, si vous êtes participant d'études, vous allez lire « Paul était fatigué, alors il alla tôt, lit ». L'image de lit apparaît, vous devez dire « lit », on mesure votre vitesse de réaction. Ou, autre condition, vous voyez, vous allez voir l'image d'un lit apparaît, vous devez dire en fait lit, on mesure votre vitesse de réaction. Mais évidemment, en parallèle, il y a bip, boop, bip, et vous devez catégoriser. Bon, les gens y arrivent. Hein. Il y a un entraînement, puis les gens y arrivent. Qu'est-ce que montrent les résultats ? Alors, de façon triviale, les résultats montrent, mais ça, c'est pas ce qu'on attendait. Enfin, si on l'attendait, mais c'est parce que c'est pas là-dessus qu'on allait s'exciter, quoi. Les résultats montrent que, évidemment, on va plus vite pour dire lit quand on a lu une phrase qui induit le mot que quand on a lu bon, ça. Mais le plus important, c'est que ça se reporte sur les vitesses de catégorisation. C'est-à-dire qu'on catégorise moins vite quand c'est plus difficile, hein, à choisir le mot. Donc, si la fabrique des mots était sans coût, on n'aurait pas d'effet sur la tâche de catégorisation. Donc ça coûte. Donc c'est coûteux. Donc fabriquer est coûteux. Alors quelques mots pour conclure. Donc, je vous ai présenté quelques problèmes de recherche actuels. Franchement, ce sont des problèmes actuels. C'est pas des choses qui datent du siècle dernier ou bon, enfin, si, mais certaines, mais du siècle dernier au sens strict. Mais alors, je serais un démagogue si je vous disais là, bon, ben, c'est bon, hein, on sait parfaitement comment on va utiliser toutes ces connaissances pour soigner les gens, pour enseigner, pour alors, ces connaissances sont utiles pour l'enseignement, sont très utiles pour les orthophonistes. Mais notre discipline est très jeune. Les sciences cognitives, c'est une discipline jeune. Donc, il y a nécessité à être patient. Il faut stabiliser les résultats. Il faut asseoir les résultats. Les expériences, elles sont très nombreuses. Il y en a énormément qui se font. Mais évidemment, elles ne sont pas toujours en accord. Et ce n'est pas dû au fait qu'on ne prend pas de précautions. Hein, on en prend énormément. C'est dû au fait que l'être humain, ben, c'est pas un bout de caillou... C'est-à-dire, c'est instable l'être humain, il est très variable, il y a beaucoup de différences entre les gens, et soit on n'est jamais toujours pareil, donc, enfin si, mais je veux dire, il y a beaucoup de variabilité dans l'être humain, il y en a beaucoup plus que pour étudier un autre objet, comme par exemple, je dis, hein, une roche, ou... Donc il faut stabiliser cet ensemble de connaissances, et puis il faut compléter, il faut aller de l'avant, il faut enrichir, avant de s'aventurer à la proposition de pistes claires de pour la remédiation ou pour l'enseignement. Donc voilà, la leçon à tirer de tout cela, c'est humilité. Humilité, humilité. Voilà. Merci pour votre attention et bon festival.